Vous écoutez RTL.
Et tout de suite sur RTL, on part explorer les régionalismes de notre langue. Bonjour Mathieu Avandi.
Bonjour.
Soyez bienvenue. Vous êtes linguiste et spécialiste des Français régionaux. Alors vous êtes plutôt chocolatine ou pain au chocolat?
Moi, je suis plutôt pain au chocolat.
Est-ce qu'on est nombreux à dire pain au chocolat? Moi aussi, je dis pain au chocolat.
La plus grande partie des Français disent pain au chocolat. Il y a une toute petite partie du sud-ouest en France qui dit chocolatine, effectivement.
Et moi, j'ai dit chocolatine pendant très longtemps parce que j'ai vécu à Bordeaux. Et c'est vrai que quand on arrive à Bordeaux la première fois et qu'on demande un pain au chocolat, on vous regarde comme un extraterrestre ou comme un affreux parisien. Quoi.
Vous savez d'où vient cette différence?
D'où elle vient, on ne sait pas. On sait que chocolatine, c'est un mot assez récent dans l'histoire du français. C'est un mot qui est apparu dans les années 60. Et les attestations qu'on en avait avant, ça désignait un petit bonbon au chocolat. Et on n'est pas sûr qu'il y ait un lien sémantique entre ces deux appellations.
Mais les deux
sont délicieux. J'avais lu Chocolate Inn, que ça datait de l'époque où les Anglais dominaient la région. Est-ce que c'est possible, ça?
Non, ça, c'est une légende urbaine.
Ah, ben j'adore quand on chasse les idées reçues dans cette émission. Merci beaucoup. Donc, deux mots seulement, j'ai envie de dire, pour désigner cette brioche chocolaté, mais on a mieux 10 mots pour désigner la serpillière. A tout de suite sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous écoutez RTL.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un pain au chocolat. Une chocolatine. Voilà, je vais souvent dimanche matin dans la boulangerie à côté de chez moi, j'achète un croissant, un pain au chocolat, pardon, une chocolatine et une ficelle.
La curiosité est un vilain défaut.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat.
RTL.
J'ai mangé une chocolatine.
Tu veux dire un pain au chocolat?
Très bonne blague.
C'est une bonne connue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bon, hier à la curiosité, on a bien rigolé, on a bien vous raconté des coulisses de l'émission. Thomas a demandé un crayon à papier. Moi, j'ai répondu, moi j'ai un crayon gris si tu veux. Thomas n'en voulait pas. Et Perrine, notre chef, lui a dit, mais moi je peux te passer mon crayon de bois. Bref, personne ne s'est compris.
J'avais
et Thomas
crayons,
est resté sans crayon. On a voulu en savoir plus sur ces mots qui changent en fonction de nos régions. Mathieu Avandi, vous êtes linguiste et spécialiste de ces Français régionaux. Alors, crayon gris à papier, bois, c'est la même chose?
C'est le même objet, effectivement. Par contre, la dénomination change en fonction des régions. Donc, si vous êtes en Belgique, vous appelez ça un crayon. Dans le nord de la France, on appelle ça un crayon gris. Et on trouve aussi dans le sud-est ou vers Perpignan, le crayon de bois.
Mais alors, c'est vrai que ça peut créer des mésententes ou des mécompréhensions, des incompréhensions entre les gens quand on se retrouve. Nous, on est tous des provinciaux, on se retrouve à Paris là, pour travailler RTL. On ne se comprend pas toujours.
C'est tout à fait ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. Les gens s'écharpent beaucoup et c'est presque se critiquent en disant il dit crayon gris dans une zone crayon de bois, là c'est un drame. Quoi.
Et dans les zones frontalières entre les deux régions, entre le crayon de gris et le crayon de bois, ça se passe bien? On passe de l'un à l'autre facilement, j'imagine?
Ouais, souvent les gens connaissent deux variantes, à moins qu'ils soient vraiment au centre du nerf, et là ils ont une seule variante.
Alors vous publiez Atlas français de nos régions aux éditions Armand Collin. Alors on va parler de la serpillière forcément, parce que c'est peut-être la championne de France des mots avec plusieurs consonances régionales. Vous les avez comptés, il y en a combien?
Dans l'enquête, quand on a proposé aux internautes, on avait proposé une vingtaine de termes. Finalement, sur la carte qu'il y a dans le livre, on n'en a plus qu'une 12 ou 13, puisque les autres n'avaient pas obtenu assez de voix ou assez de réponses dans les sondages.
Moi, j'en connais deux, la serpillière, et j'ai fait 2 ans d'études dans le Nord, à Lille, la Wasing ou la Washing, je ne sais plus comment on prononce. Il y en a, alors c'est quoi les autres?
Vous avez la toile, ou la toile d'emballage, ou l'emballage. Vous avez la panosse. Chez moi, en Savoie, ça s'appelle une panosse. Ah, vous avez la paye. Vous avez la pièce, ou la pièce à relaver. Vous avez le torchon, ou le torchon de plancher. La cince.
La frégone aussi.
La frégone, ouais, frégona en espagnol.
C'est dans quelle région, ça? Donc, c'est proche de l'Espagne,
tout
c'est
à
ça?
Fait, ouais, c'est en bas, ouais.
Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se comprendre quand on vient de régions différentes et qu'on est réunis ou qu'on voyage dans notre pays. Par exemple, quand quelqu'un vous dit « vas-y, t'embête pas, mets tout dans ma poche », c'est pas forcément la poche de son pantalon. Non, parce que ça m'est déjà arrivé.
Parce que ça va pas rentrer. Hein.
Non, parce que mettre les 3 concombres
ouais,
et.
C'est ça, c'est
voyez,
je reviens des
la
courses.
La brique de lait dans
tout dans ma poche.
Ça rentre pas. C'est quoi les synonymes en fait? Poche, c'était pourquoi? Pour parler de sac en fait?
Poche, c'est pour parler de sac. Quand j'ai habité en Suisse il y a une dizaine d'années, j'ai déménagé là-bas, je suis allé au supermarché, on m'a proposé un cornet et j'ai vraiment regardé l'hôtesse de caisse comme ça en lui disant mais quoi? Et donc un cornet, c'est un sachet, et si vous remontez un tout petit peu, vous avez l'appellation sac qui est un peu plus connue. Mais donc si vous allez au nord de la zone poche, vous avez le mot pochon, et puis en Alsace, on a aussi nylon.
Fermer une porte à clé, ça semble simple, ça semble simple comme expression, mais pas à prononcer. Pourtant, ça se dit de plein de façons différentes.
Effectivement, donc vous avez pas mal de dérivés en fait, du mot clé sous toutes ses formes, donc clavé, clefté, clévé.
Crouillé aussi, j'ai vu.
Crouillé, ouais. Vous avez sinon barré, hein, qui rappelle quand on barrait une porte, notamment à Châteaufort.
Et hier, quand on a fait le passage d'antenne avec Flavie Flamand, elle me disait, moi, je parle d'une clanche à la place d'une poignée. Ça, c'est la même chose.
C'est la même chose.
On peut dire clencher, en fait, quand on dit fermer.
Ouais, clenche ou clinche, ça vient du même mot que déclencher.
D'accord.
On a souvent un débat avec Thomas sur la prononciation des mots aussi. Par exemple, quand on dit un sourcil, Thomas, il me dit, mais non, on dit un sourcil. Mais c'est ridicule, un sourcil, un sourcil. Et on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre livre, on ne sait pas.
Heureusement que c'est pour ça qu'on
n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et finalement, la réponse avec vous, est-ce qu'on dit sourcil ou sourcil, et où est-ce qu'on dit ça?
Ça dépend d'où vous venez. Donc effectivement, peut-être que vous avez attrapé ça dans le nord de la France. En tout cas, en Belgique, on dit sourcil. Et dans la plupart du reste du territoire français, on appelle ça des sourcils en faisant sonner le L final.
Mais dans le dictionnaire, qui quand même départage un petit peu le bien parler, on conseille de dire sourcil.
On veut que vous soyez l'arbitre de notre match, donc décidez-vous là.
Bon, pour celui-ci, je pense que les dictionnaires de grande consultation donnent que la variante sourcil. Mais par exemple, pour persil, moi je dis persil, mais d'autres vont dire persil. Là, les dictionnaires disent persil. Mais dans d'autres cas, par exemple ananas ou anis, les dictionnaires donnent les deux et donnent pas l'une comme préférable à l'autre.
Et alors, vous allez voir ce qui est incroyable et ce qu'on va découvrir dans un instant, c'est que la prononciation de la fin des mots a un rapport avec notre âge. Ça explique peut-être les choses. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On parcourt la France à la découverte de nos régionalismes de langue avec le linguiste Mathieu Avanzi. On faisait tout à l'heure la liste des mots pour dire serpillière. Moi, j'ai découvert la frégone, la pâte, la pièce, la panosse la veille, en plus de la wassinque que je connaissais.
C'est bien de connaître les mots, mais il faut la passer aussi, la serpillière.
Ouais, c'est ça, de temps en temps. Mais tiens, pourquoi ce mot-là, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais détient une sorte de record? Pourquoi c'est celui qui a le plus inspiré des régions différentes?
Ah, souvent, c'est le hasard de l'évolution historique qui fait ça. La serpillière, c'est un objet assez récent dans les foyers français, notamment dans les campagnes où pendant longtemps, les sols étaient en terre battue. Et là, les mots que vous avez cités tout à l'heure, donc wassinque, cince, etc., c'est en fait des mots qui désignent souvent un vieux bout de tissu. Donc, on voit tout de suite l'analogie. En fait, par exemple, emballage ou toile, c'était des morceaux de tissu qu'on utilisait pour emballer des caisses. Et puis, c'est ça, finalement, quand le bout de tissu était usé, on s'en servait pour nettoyer par terre. Quoi.
D'accord. Pourquoi est-ce qu'un mot se maintient? Pourquoi est-ce un mot se maintient dans une région et pas finalement mangé par le mot principal qui va être utilisé par une immense majorité de Français?
Alors ça dépend toujours des cas, il faut toujours regarder un peu au cas par cas. Souvent il y a des mots qui sont revendiqués comme l'appartenance régionale ou l'appartenance culturelle ou des prononciations. Par exemple, le fait de prononcer moins, l'opposition moins et plus, et ben beaucoup de gens prononcent dans le sud-ouest moins et ils vont dire je dis moins et je suis toulousain. Donc c'est très associé à être toulousain. Même chose avec vin, V-I-N-G-T. Beaucoup de gens prononcent le T final, notamment dans l'Est. Et vous avez même des t-shirts qui existent. Je dis 20 et je suis Lorrain, le vin, je le bois. Donc vous avez des. ces mots se maintiennent, ces prononciations se maintiennent parce qu'elles font partie de l'identité.
Ouais.
Mathieu.
Il y a d'autres raisons pour lesquelles un mot se maintient. Je ne sais pas, la transmission, par exemple, elle se fait par qui?
Tout à fait. Alors, il y a d'autres raisons qui font qu'un mot peut se maintenir, notamment le fait si le mot a un concurrent en français général ou pas. Par exemple, le concept de s'entrucher, c'est-à-dire s'étrangler en mangeant, n'a pas de correspondance simple en français standard.
Je ne connaissais pas.
Oui, c'est pratique, un petit mot pour remplacer 3-4 autres mots.
Ça peut faire vraiment la gloire d'un mot. Après, vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont vraiment des vecteurs de l'essor de ces mots. Je pense par exemple à Déguin qui a été repris par Macron dans son meeting à Marseille en mai dernier. Il a dit avec vous à nos côtés, on craint Déguin. Donc,
ça veut dire craindre personne, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Il est marseillais?
Non, il vient du Nord, donc c'est d'autant plus bizarre.
Il s'adapte, c'est un homme politique.
Vous publiez un livre qui s'appelle Atlas du français de nos régions aux éditions Armand Collin. C'est très très bien fait parce que c'est une série de cartes et sur ces cartes on voit où on prononce tel ou tel mot et on voit la proportion de gens qui disent par exemple sourcil ou sourcil, pour revenir sur ce grand débat entre Thomas Hugues et moi. Et j'apprends dans votre livre, et je suis très contente, que la prononciation de la fin des mots a sans doute un rapport avec l'âge de celui
ce que vous voulez dire,
qui prononce. Quelle est cette règle, Mathieu Avanzi?
Alors de nouveau, pour certains mots, on observe que la prononciation ou pas de la consonne finale, par exemple à Nice, moi je prononce à Nice, mais dans la chanson de Gainsbourg, c'était les sucettes à l'Annie d'Annie, où il jouait justement sur le fait de ne pas prononcer le S. Et bien cette prononciation sans S, c'est une prononciation qu'on appelle archaïque ou vieillissante, et c'est plutôt la population vieillissante qui ne prononce pas le S.
Alors pardon, Sidonie,
ou moi, les je consonnes
dis,
finales.
Moi je dis c'est exact, mais il y a des gens qui disent c'est exact.
Et de nouveau, c'est des gens un peu plus âgés. Enfin, d'accord. C'est ce qu'on a pu observer. Il n'y a pas vraiment de région associée à la prononciation exa ou la prononciation ou du mois d'août, mais des effets d'âge.
Il y a l'âge aussi, puis il y a les régions. Par exemple, dans le sud, où on adore prononcer les e muets. Dans quel mot, par exemple, ça donne quoi, Mathieu Arruzzi?
Donc des e muets, par exemple, qui n'existent pas à l'écrit. Vous avez le cas de pneu, un pneu pneumatique où on peut entendre la variante pneu, mais la même chose avec exprès. Vous pouvez l'entendre prononcer exprès.
Et il y a certains aussi méridionaux qui n'hésitent pas ajouter des E qui n'existent pas. Alors il y a pneu, mais il y a d'autres mots aussi. On ponctue, par exemple, André Facetta, vous qui êtes du Sud, est-ce que vous ajoutez des E, notre réalisateur, à la fin de certains mots? Non, jamais.
Il fait non. Il
la
dit,
fille,
je suis pas il dit,
par
je
exemple.
Toulousain.
Non, mais par exemple, quand on dit la fille.
C'est simplement parce qu'ils ont besoin, quand ils ont une consonne, d'avoir un E muet qui suit pour respecter l'alternance entre consonne et voyelle. C'est enfin, cognitivement normal de faire ça, disons.
Mais ça, c'est quoi? C'est sud-ouest, effectivement? C'est-à-dire que c'est uniquement Toulouse, Bordeaux, sa région? Ou c'est
ça,
le
c'est
sud en général?
Disons, c'est grand sud. Et après, à l'intérieur du grand sud, vous avez des différences en fonction des mots. C'est difficile. Mais disons, ce E muet, on le retrouve surtout dans le grand sud.
Allez, pour se réconcilier, on va se faire des bises. Ah oui, mais on en fait combien des bises? Combien il faut en faire des bises? Aujourd'hui, à Paris, là, en ce moment, on en fait deux.
Deux?
Ouais.
Pour pas vous tromper, je dirais qu'il faut en faire deux. Après, si vous allez en Suisse, en Belgique, ou si vous allez en Bretagne, le nombre va changer. En Suisse, c'est trois. En Belgique, c'est une. En Bretagne, c'est une.
Et le plus de bises qu'on peut faire, parce que tant qu'à faire, autant s'embrasser beaucoup, c'est quatre.
C'est quatre.
Et
c'est
ça,
quatre.
C'est où?
Ça, c'était dans une grande partie de la France septentrionale. Et cet usage, en fait, qui voulait qu'on couvre les bises, les faces de chacun deux fois, est en train de se perdre. En fait, de nouveau, il y a des effets d'âge associés à ça.
Schnougel, schlouk, schlap. Bah oui, je vous parle bien français. Traduction dans un bref instant sur RTL.
Bienvenue sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Culture, service, humour, belle matinée sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une langue belle, avec des mots super.
Je crois que c'est un des derniers remparts, justement, pour l'identification régionale et dire d'où ça convient.
J'ai fada, je crée des gueules.
Leur donner une légitimité scientifique, ça veut dire qu'ils existent et ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment aux vrais Français que les gens parlent.
En écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
On savoure les belles mises en onde de notre réalisateur André Facetta pour évoquer les richesses de notre langue française à travers ces régionalismes. On en parle avec le linguiste Mathieu Avanzi. Alors si je dis à Thomas, Thomas, attention, vous avez un peu de schnougel là, je lui dis quoi?
Je crains le pire.
Qu'il a un peu de morve.
Ah, je ne l'avais pas vu dans le livre.
Non mais je voulais vous le dire,
ça, c'est
gamins,
bien une pesterie dont vous êtes capable. Je ne sais pas si pesterie est français. Mais je l'ai inventé en tout cas.
Ça vient d'où ce mot schnougel?
Celui-ci vient de l'allemand, enfin des dialectes alsaciens, disons. En Alsace, il y a beaucoup de mots qui sont venus des parlers locaux qui sont passés en français.
Et mettre ses schlappes, si je dis ça à Sidonie, c'est quoi mettre ses schlappes?
Ça va pas être sympa ça.
C'est gentil.
Comment vous savez que je porte des chaussons?
Bah oui, des petites charentaises. Chez vous, est-ce qu'il y a des mots pour les repas? Parce qu'on pourrait penser qu'on dit tous de la même façon, on passe à table et on a les mêmes mots pour passer à table. Est-ce qu'il y a des modifications régionales?
Alors, il y a l'usage parisien qui est la triade petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais ouais, c'est une triade qu'on ne retrouve pas partout. Beaucoup de gens dans beaucoup de régions, simplement, soit ils n'ont pas de mots pour désigner le repas de midi.
On mange.
Ils disent manger à midi. Moi, j'ai toujours dit comme ça, on mange à midi. Soit ils déjeunent le premier repas le matin, à midi, ils dînent, et puis le soir, ils soupent. Donc, si on vous invite à dîner dans certaines régions, soit on vous invite à midi, soit on vous invite le soir.
Il faut se mettre d'accord, sinon on ne se retrouve jamais, quoi.
Ouais, autant vous n'allez jamais réussir à vous manger ensemble. Quoi.
J'arrive à 13h et on vous attend le soir. C'est moche.
Mathieu Avanzi, vous publiez un atlas place du français de nos régions. C'est aux éditions Armand Collin. Et l'on y découvre tous ces mots, comme ce mot très poétique, la chlouque. Ça veut dire quoi?
Je crains le pire.
Et ça se dit où? Vous n'êtes pas dedans, Thomas Hugues, vous avez vu. Je prends soin de vous.
C'est masculin, et puis ça veut dire une gorgée. Et comme les schlappes ou comme la schnougel, ça vient des dialectes germaniques.
Est-ce qu'il y a des mots du travail aussi? Embaucher, débaucher, par exemple.
Alors, embaucher, débaucher, les gens sont souvent surpris quand on leur dit, mais pas toute la France dit embaucher et débaucher. C'est une grande partie de l'ouest de la France. Donc, embaucher, aller au travail, débaucher, sortir du travail.
Il y a aussi un mot qui a ses régionalismes, c'est le mot très, quand on dit je suis très fatigué, je suis très énervé. On ne le dit pas de la même manière partout, et ça dépend et des régions et de l'âge aussi des gens.
Alors, effectivement, dans le sud-ouest, vous avez l'adverbe gavé, hein, donc il est gavé cher ou je suis gavé fatigué. Ou celui-ci, on peut aussi l'entendre dans la bouche de personnes plus âgées, ce qui est assez surprenant parce que ça fait très non-standard, hein, si j'ose dire. Et puis de l'autre côté du sud, à Marseille, vous avez la variante tarpin. Donc c'est tarpin cher, je suis tarpin fatigué.
Et ça veut dire quoi, tarpin? On sait d'où
ça vient. Très ou trop.
Oui, mais c'est de l'argot, en fait, de l'ancien argot.
C'est un régionalisme de Marseille, donc on l'entend surtout dans la bouche des jeunes, mais bon, il faudrait que je cherche pour savoir d'où c'est que ça vient.
Mathieu Avanzi, est-ce qu'il y a des mots qui se dérégionalisent, c'est-à-dire qui étaient cantonnés à une région et qui ont gagné l'ensemble du territoire français?
Effectivement, on peut prendre l'exemple du mot drache, par exemple, qui est en train de se dérégionaliser suite notamment à toute la pub qu'il y a eu autour avec Bienvenue chez les Ch'tis, où quand on voit qu'il arrive dans le Nord et puis il passe la région Nord-Pas-de-Calais, puis il y a une drache monstrueuse qui lui tombe dessus.
Oui, il passe le panneau, le panneau de la région et la pluie commence à tomber. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ce mot dans le Nord. Donc c'est un mot du Nord ou c'est un mot belge d'ailleurs?
C'est un mot qu'on entend et dans le Nord et en Belgique, parce que souvent, les régionalistes s'affranchissent des frontières politiques et ils se dérégionalisent. Enfin, il est de plus en plus utilisé parce qu'il n'y a pas de mot en français autre que celui-là pour désigner une pluie forte, abondante et soudaine, comme on a souvent dans le Nord ou en Belgique.
Alors, Thomas a passé beaucoup de temps dans le Nord. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le sud de la France. Et il y a un mot que j'ai retrouvé dans votre livre que j'avais complètement oublié. C'est le verbe « péguer ». Vous nous rappelez ce que ça veut dire?
Alors, péguer, ça veut dire coller légèrement, notamment si vous renversez du sirop ou du soda par terre. Ça colle, mais ça colle légèrement. Et c'est pas tout à fait le même sens que coller.
Et on peut être aussi ensuqué dans le sud de la France, c'est quoi ça?
Ça veut dire. Alors, souvent, on parle de quelqu'un qui est ensuqué quand il vient de se réveiller ou quand il fait vraiment très chaud, puis qu'il a du mal à ouvrir les yeux et du mal à se bouger. Donc, on dit que la personne est ensuquée. Donc, un petit bébé qui se lève et qui baille et piqué comme ça, on va dire, mais il est ensuqué.
Et puis, parfois, on est escagassé, ça, j'adore. J'adore dire ça, je l'ai gardé et je l'ai apporté ici. Ah, ça m'escagasse.
Ça m'embête tout simplement, donc on a reconnu dedans la racine cagard, donc je ne traduirai pas.
Ah, mais d'ailleurs, ça veut dire quoi, faire caca?
C'est ça, ouais.
Voilà. Ah, oui.
Et d'ailleurs, Sidonie retrouve un accent du sud, ce qui est particulier pour une bretonne, quand elle dit escagasser.
C'est vrai, ou rose. Ouais. Merci beaucoup,
merci,
Mathieu Avanzi.
Merci à vous.
Plein d'autres régionalismes et mots savoureux de nos régions à découvrir dans votre atlas du français de nos régions, qui est publié aux éditions Armand Collin. Kenavo.
Vous écoutez RTL.